un honneur de pouvoir participer avec vous à cet Askara, mais c'est également un grand mérite. Un grand mérite parce que vous connaissez tous, et je l'ai dit dans d'autres circonstances, et je l'ai dit également à la Levaya, Mikol Melamda Iskalti, Gam Michaverai ou Mitalmidai Yoter Mikulam, j'ai appris de tout le monde, de mes maîtres et de mes amis, mais de mes élèves peut-être encore plus que de n'importe qui. Et évidemment que, alors, on va l'appeler maman, d'accord ? On va l'appeler maman, parce que même pour notre cours, c'était peut-être la maman du groupe, c'était la maman. Et donc, évidemment que ça a été une grande leçon de vie à chaque fois qu'on la voyait. Alors, j'ai reçu effectivement la vidéo que tu m'as envoyée. Et alors, je sais pas si tout le monde l'a reçu, si tout le monde l'a vu. Une vidéo extraordinaire. Alors, je sais pas quand est-ce que c'était, l'année dernière, il y a 2 ans, je sais pas exactement.
L'année dernière à Yom Yerushalayim.
Voilà. Et on voit donc maman danser au milieu de toutes ces jeunes filles qui sont venues avec leur drapeau. Et on voit cette joie de vivre. Alors, tu m'as demandé de faire un chiour sur la notion de maman. C'est un sujet qui est tellement vaste, tellement énorme. Donc, on est bien d'avoir toute la nuit. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre. On ne va pas réussir à tout faire. De toute façon, quand on parle de maman, c'est tout un concept. C'est tout un programme. Et donc, eh bien, très souvent, tu m'as dit aussi, essaye de mettre ça en rapport aussi avec Rosh Hashanah, avec Kippour et tout ça. Enfin, je te laisse gérer. Donc, voilà le travail. De parler de maman, de parler de Yom HaKippourim, de parler de Rosh Hashanah, de parler de toute cette période extraordinaire qui est la nôtre. Alors, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de maman, de la même façon quand on parle de papa dans le judaïsme, eh bien, tout de suite, nous viennent à l'esprit Abraham, Yitzhak, Yaakov pour les papas, et nous viennent à l'esprit Sarah, Rivka, Rachel, Léa pour les mamans. Et avant de comprendre qui était Yehoudite, est-ce qu'elle était plus Sarah, est-ce qu'elle était plus Rivka, est-ce qu'elle était plus Rachel ou Léa, mais il faut d'abord savoir qui était Sarah, Rivka, Rachel, Léa. C'est quoi qui leur a valu la dimension d'être matriarche, d'être des imaot? Cette question-là, cette question de c'est quoi être un papa ou une maman, eh bien, c'est une question qui est posée dans la Torah. Dans la Torah, dans le livre de Shemot, eh bien, Dieu se dévoile à Moshe et lui dit, au tout début de la paracha de Va'era, il lui dit « Va'era el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai, ushmi Hashem lo nodat ilahem. » Je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que El Shaddai, mais mon nom véritable, Yudke Vavke, je ne me suis pas dévoilé à eux comme ça. Là, on parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais il en va de même pour Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Qu'est-ce que c'est que cette différence entre El Shaddai et Yudke Vavke? Eh bien, Rashi va répondre à cela. Rashi va répondre à cela et dire la chose suivante.
Allô?
Oui?
Ouais, salut, ça va?
Dites-leur que je ne suis pas là. Et donc, Rashi va répondre à cette question. C'est quoi la différence donc entre El Shaddai et Yudke Vavke? Il dit, El Shaddai, zemi shemeftiach haftachot. C'est celui qui fait les promesses. Alors que Yudke Vavke, c'est celui qui réalise les promesses. En d'autres termes, lorsque Dieu se dévoile à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, eh bien, il leur fait une promesse. Une promesse que eux ne verront pas se réaliser. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je veux que vous compreniez bien cette dimension de maman. Parce que je suis en train d'essayer de vous expliquer que, en fait, Yehoudite n'était pas une maman. Vous allez comprendre de quoi je parle. Les matriarches, les patriarches, sont ceux qui sont des avotes. Dans le verset que j'ai cité tout à l'heure, il y a marqué « Va'era el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov » Rashi dira « El avot ». J'ai envie de te dire « Toda Rabba, Rashi ». Tu m'apprends rien. Je savais bien qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient les avotes. Quel est le chidouche? Et en fait, non, le chidouche, c'est qu'ils ont accepté d'être des avotes. Yitzhak aurait pu être le fils d'eux. Yaakov, le fils et le petit-fils d'eux. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa ont accepté d'être des avot et imaot, c'est-à-dire de vivre pour un idéal que eux-mêmes ne verront pas se réaliser. En d'autres termes, depuis Avraham et jusqu'à l'entrée des Béné Israël en Eretz Israël avec Yehoshua, nous étions des avot, vivant pour une promesse que Dieu nous avait faite, d'avoir d'un côté la descendance, le peuple d'Israël, mais d'un autre côté la terre d'Israël. Et donc, tant qu'on n'y était pas, eh bien, on n'était pas encore en train de le réaliser, cette promesse-là. La génération de Yehoshua, et jusqu'à la destruction du premier temple, étaient des banim. Lorsque la destruction du premier temple est arrivée, eh bien, pendant 70 ans, on est redevenu des avot ve'imaot. En d'autres termes, on a recommencé à vivre pour une promesse, celle de Yehezkel, de Jérémie, qu'on allait revenir. Et lorsqu'on est revenu avec Ezra et Nehemia, et encore plus avec les Hashmonaïm, on est redevenu des Banim. Et ce, jusqu'à la destruction du deuxième temple, où en fait, eh bien, on est passé de nouveau au stade de Avot Ve'imaot, vivant pendant 2000 ans pour cet espoir de l'an prochain à Jérusalem. Jusqu'à ce moment incroyable du XXe siècle. Alors, Yehoudit est née avant la création de l'État d'Israël. Elle a fait partie de cette génération incroyable qui est passée du stade de maman au stade d'enfant. Et la vidéo que tu m'as envoyée montre à quel point elle est redevenue une enfant d'Israël. Les débuts d'années de sa vie, elle a vécu pour ce rêve qui s'appelait Jérusalem, qui s'appelait Am Israël, qui s'appelait la résurrection nationale. Elle faisait partie de ces imaot bimillénaires qui attendaient la réalisation. Et tout d'un coup, eh bien, elle est devenue, comme sa floupe, elle est devenue banim. Mais quelle ima était-elle? Était-elle Sarah? Était-elle Rivka, Rachel ou Léa? Odaï, Sarah, c'était qui? Qu'est-ce qu'on apprend de maman Sarah? Ah, c'est pas compliqué. Maman Sarah, plus que n'importe qui, c'était l'amour de Eretz Israël. À tel point que sa grande dispute avec Abraham sera de dire « Lo yirash ben ha'ama azeh im beni im Yitzhak ». Ce n'est pas lui qui héritera de la terre d'Israël avec mon fils, avec Yitzhak. Sarah était l'amoureuse par excellence de la terre d'Israël. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer à quel point Yehoudit était Sarah. Mais ça ne suffit pas d'être Sarah. Sarah, Zemidat Adin, elle ne fait pas de concession pour la terre d'Israël. Elle ne fait pas de concession pour la protection de ses enfants. C'est très important, mais ça ne suffit pas. Il nous faut également autre chose. Midat Achesed. Midat HaChesed, cette dimension de bonté qui est complètement l'inverse de Midat HaDin. Attention, complètement l'inverse. Prenons un exemple bateau. Tu es dans un mariage, pas pendant le corona, d'accord? Tu es dans un mariage où il n'y a pas de restrictions. Et tu es là avec ton fils de, je sais pas, 7 ans, et il te dit « Papa, porte-moi sur tes épaules. » Alpi Midat HaDin, tu peux pas le prendre parce que tu es trop rigoureux et tu sais très bien qu'il faut faire attention, il faut que tu calcules la hauteur du plafond, peut-être qu'il va se cogner la tête et puis on sait jamais, peut-être qu'il va tomber, machin, c'est dangereux. Et puis tu connais tous les cas sur Internet qui montrent des chutes de danse sur les épaules et tout. Midat HaDin, tu le prends pas. Midat HaChesed, papa, tu me prends sur tes épaules? Mais attends, bien sûr. Et une fois qu'il est sur tes épaules, tu vas même le faire sauter encore plus haut. Le problème, c'est qu'effectivement, il peut effectivement se prendre la lampe. Ça peut arriver. Midat HaChesed, quand elle n'a pas de gvoulot, on ne sait pas jusqu'où elle va. Moi, j'ai encore en tête. Alors, je ne sais pas lequel des blocs, je ne me rappelle plus lequel des blocs a dit. Mais un des deux enfants blocs a dit, à la Alvaya, et ça m'a énormément touché, que, alors, vous parliez de mamie, mais vous disiez que c'est pas Stam mamie. Parce que il y a des gens qui donneraient à manger des trucs sains, des trucs qui sont bons pour la santé. Je dis, mais pas, c'était toi? Ben voilà. Mais toi, tu dis, mais non, chez nous, c'était pas comme ça. Chez nous, c'était une glace, c'était des frites, c'était du coca. Du coca, c'est quand même bien meilleur que de l'eau. Alors, je ne pouvais pas être plus d'accord avec toi, mais je vis la dictature anti-coca dans ma maison. Donc je subis, tu vois ce que je veux dire. Donc j'étais tellement touché par ce que tu disais, mais c'était peut-être un petit peu complètement intéressé. Mais c'est tellement vrai. Ah, c'est sûr que donner du coca à chaque fois que les enfants et petits-enfants y viennent, c'est pas bien. De donner des frites à chaque repas, c'est pas bien. De manger du Nutella à la cuillère, c'est pas bon pour la santé. C'est vrai que c'est pas bon pour la santé. Avalze kol kach midat chesed. C'est tellement. Ben oui, c'est chesed. Le problème, c'est que, je t'ai dit, Myriam, chesed sans limite, c'est dangereux. Mais c'est chesed, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu crois quoi? Elle va lui donner du cottage? Enfin. Ben
Non, mais elle adorait les frites, c'était pas.
voilà, je sais, elle a parlé des frites, je me rappelle bien. Ben les frites à chaque repas, matin, midi et soir, c'est pas bon pour la santé. Mais, ça fait du bien. Mais ça fait du bien. En mala asot. Zemidat adin shel Sarah, l'amoureuse d'Eretz Israël, mais c'est également Rivka, qui est kol kula midat chesed. Complètement chesed, Rivka. Elle devait justement faire l'équilibre avec son mari Yitzhak, qui lui aussi était complètement comme sa mère, midat adin. Il fallait donc une femme qui était complètement chesed, de la même façon que Avraham, qui était chesed, avait besoin d'une femme qui était complètement digne. En d'autres termes, eh bien, maman, c'est également Midat Adin, aval également Midat Chesed. C'est également l'amour d'Eretz Israël et également l'amour de la descendance. C'est Rivka qui viendra voir son mari Yitzhak en lui disant, mais fais quelque chose. C'est tellement profond que c'est implicite, à tel point que Yitzhak va se mettre à prier. Vous savez, Yitzhak, il n'avait pas l'habitude de prier. Prier, c'est de demander à Dieu de changer la situation actuelle. Là, on demande à Dieu qu'il nous enlève le corona. Prier, c'est vouloir changer la situation. Mais Yitzhak, en tant que tzaddik, qui accepte la rigueur, eh bien, il ne demande rien. Il accepte tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que la Torah nous dit que enfin, il va y être tard lo Hashem, que Dieu a entendu sa prière à Yitzhak. Comment ça se fait qu'il a été prié? On nous dit, Chazal, que Akadosh Baruch Hu mit'ave les tfilatam shel tzadikim. Que Dieu est très friand des tfilot des tzadikim parce qu'elles sont rares. Parce que le tzadik a l'habitude d'accepter ce qui lui arrive. Et donc, il met Yitzhak dans une situation impossible pour l'obliger à prier. Yitzhak est censé être un patriarche et il n'a pas d'enfant. Donc, eh bien, il va être obligé de prier. Et il prie pour qui? Il prie pour sa femme. Sarah, c'est Eretz Israël. Rivka, c'est Am Israël. Sarah, c'est Midat Adin. Rivka, c'est Midat Achesed. Et puis après, nous arrivons à Rachel et Léa. Rachel et Léa, c'est Gam Din ve Gam Chesed. C'est ce qu'on appelle Midat Arachamim. Mais au-delà de cela, Rachel et Léa, c'est deux dimensions fondamentalement différentes. D'après la Torah, on apprend de Rachel qu'elle était très belle. Qu'elle était très belle. En d'autres termes, qu'il y avait une influence extérieure lorsqu'on la voyait. C'est quoi la beauté? La beauté, c'est la première chose qu'on voit à l'extérieur de la personne. Quand on regarde la personne, avant de connaître ses qualités profondes, tout ça, eh bien, on va regarder d'abord, bah, comment elle apparaît. Et c'est toi, Myriam, qui me disais que, bah, que Yehudit voulait apparaître tout le temps propre sur elle, bien. Faut avoir l'air d'un mensch, comme on dit en arabe. Il faut avoir l'air bien. Parce qu'elle savait tellement qu'en vérité, l'apparence extérieure, ce n'est pas comme disait Machiavel. Machiavel disait une phrase comme ça, il disait « Faire semblant d'avoir du pouvoir, c'est déjà avoir du pouvoir. Faire semblant d'être beau gosse, c'est déjà être beau gosse. » Combien d'entre nous, hein, tous les gens là qui sont dans le high-tech, combien d'entre nous, pendant ce corona, ont fait des réunions Zoom au travail où ils étaient en polo, chemise, cravate en haut, mais en caleçon en bas? Hein? Combien? Eh oui! Ah, je vois qu'il y en a un qui lève la main. Voilà, évidemment, à l'école, tu réussis comme ça à tromper tes profs, bien sûr. Mais non, c'est pas comme ça être un mensch. Tu ne peux pas faire semblant d'apparaître beau gosse. Et c'est exactement ce qu'on apprend de Rachel. Rachel a été yefat toar ve yefat mare. Shalim Chazal, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre que les matriarches étaient belles? Lama ze chashuv. Pourquoi c'est important de le savoir? Et on nous dit, bien, tout simplement parce que dans l'idéal, eh bien, l'aspect extérieur n'est que le reflet de l'intériorité. Vous savez, c'est ce qu'on dit tous les vendredis soirs. Voilà, dans la chanson qu'on chante à nos femmes. Et comment on termine? Alors qu'elle s'est préparée pendant 4 heures, qu'elle a fait Shabbat et qu'en plus elle s'est fait toute belle, tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis, chérie, Sheker Achen, Vevel Ayofi. Chérie, tu sais, la grâce, ce n'est que du mensonge. Et puis la beauté, hein, tu sais, c'est très surfait. Voilà ce que tu dis à ta femme. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Sheker Achen. Bemet Achen, c'est Sheker. C'est quoi le Chen? Chen en hébreu, ça vient du mot chinam. En français, pareil, la grâce, ça vient du mot gratuit. C'est l'obé, mais t'y a fait. Vous savez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de garçons qui nous écoutent ce soir, mais qu'est-ce que ça veut dire quand un garçon il dit d'une fille qu'elle est gracieuse, elle est mignonne, elle est charmante? Ça veut dire qu'elle n'est pas belle, exactement. C'est ça, comme ça que les garçons, ils marchent. Qui béhémet à chen, quand on dit elle a quelque chose. C'est-à-dire elle a quelque chose. Si elle était belle, tu dirais elle est belle. Donc à chen ou sheker. Avala yofi ou lo sheker. Me dit Shlomo Ameler, a yofi ze hevel. Hevel, ça ne veut pas dire vanité. Hevel, c'est la fumée qui sort de la casserole. Il ne peut y avoir de fumée qui sort de la casserole sur le feu que s'il y a quelque chose dans la casserole. S'il n'y a rien dans la casserole, il n'y aura pas de fumée non plus. On dit il n'y a pas de fumée sans feu. C'est faux. Il n'y a pas de fumée sans truc à l'intérieur. En d'autres termes, si elle est belle à l'extérieur, c'est qu'elle représente quelque chose à l'intérieur. Rachel Imenu, c'est cette beauté extérieure. C'est celle qui va réussir à avoir une influence bachutz. Léa, elle était belle aussi. T'en fais pas, elle était belle aussi. Seulement Léa, d'elle, on apprend autre chose. Léa, elle est imashel malchut, elle est imashel keuna, elle est la mère de Lévi, elle est la mère de Yehuda. Léa, elle est celle qui va véhiculer toutes les valeurs à l'intérieur de la cellule familiale. Léa, c'est elle qui devient la maman du peuple d'Israël, concrètement. Léa, elle a 6 enfants, plus 2 de sa servante. C'est-à-dire l'écrasante majorité du Ham Israël, ça vient de Léa. Léa, par opposition à sa sœur qui va influer à l'extérieur, Léa est celle qui va nous donner les valeurs à l'intérieur. Les amis, je ne sais pas comment vous le dire, mais le simple fait qu'on ait ce soir cette réunion-là, montre que elle a totalement réussi, maman, à faire passer ses valeurs aux générations qui ont suivi. Sarah zemidat hadin, Rivka zemidat hachesed, Rachel c'est l'extériorité et Léa c'est l'intériorité. Bien les amis, on retrouvait ça chez maman. La vérité, je suis obligé de balancer ça comme ça, mais c'est pas que chez ta maman. C'est comme ça chez les mamans. Parce que combien de fois, quand on a voulu chercher un câlin, on a été chez maman, qui n'était pas mérité forcément ce câlin. On avait fait une bêtise. Mais on a été chez maman parce qu'on savait que là-bas, il y avait Midata Chesed. Et combien de fois on s'est fait disputer par maman? Parce qu'on savait qu'en vrai, on avait beaucoup plus peur de maman que de papa. Hein, les blocs? Et mal à saute. Et puis, combien de fois on a regardé maman, mon fils, il nous donne des shiurim tous les Shabbats. Parce que c'est lui qui dit bien plus que moi d'ailleurs. Je dois apprendre de lui. Tous les Shabbats, il regarde ma femme, sa mère, et il dit, maman, tu es belle. Hésite pas à l'out. Combien on a vu nos mamans belles? On a dit, waouh. Et d'un autre côté, combien on a appris de maman? Combien on a appris de ses valeurs? Combien elle a réussi à nous transmettre cette identité? Tellement vrai, tellement vrai. Et l'enseignement de André Neher, quand il nous explique, mais c'est quoi la définition d'un juif? Il dit, ben, définit la d'un juif, c'est celui qui a des petits-enfants juifs. C'est-à-dire celui qui a réussi à transmettre ses valeurs et son identité. Alors, vous comprenez que c'est tout ça, maman. Alors maintenant que j'ai passé en revue les quatre, je suis quand même obligé de dire quelque chose. Il y a une qualité de maman qui est par excellence et qui est directement liée à Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Dans le deuxième jour de Rosh Hashanah, on a lu une haftara. En général, vous savez, la haftara, elle est reliée à la paracha. On essaye. Le premier jour de Rosh Hashanah, la Haftara, c'est l'histoire de Chana, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui a eu un enfant. Et donc, c'est totalement en relation avec la paracha qu'on a lue, qui est la paracha de la naissance de Yitzhak. Sarah qui n'arrive pas à avoir d'enfant et qui finalement a Yitzhak. Donc, le lien est clair. Mais le deuxième jour, on lit la Akedat Yitzhak et on nous balance la Haftara sur Rachel Mevaka Albanea. Mais c'est quoi cette histoire? On nous balance une haftara qui nous parle de Yirmiyahu qui est en train de nous expliquer que les 10 tribus du Nord vont un jour revenir. Quel rapport? Cette histoire de cette deuxième haftara est peut-être l'un des textes les plus forts du judaïsme. C'est un plaidoyer qui n'a aucune commune mesure. Nous sommes dans le livre de Yirmiyahu, à la veille de la destruction du temple, et Akadosh Baruch Hu vient voir Yirmiyahu de ce qui n'est pas marqué dans l'Haftara, mais qui est marqué dans la Ptirta d'Echa Rabba, dans le Midrash de l'introduction des Lamentations de Jérémie, qui vont arriver juste après cet épisode-là. Eh bien, Dieu appelle Jérémie et lui dit, Yirmiyahu, ma'ata yoshev po? Qu'est-ce que tu fais là? Tu comprends pas que là, le Ham Israël, il va en prendre pour son grade? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Jérémie, il répond, il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas arrêté de leur dire, de faire tchouva, d'arrêter leurs bêtises, ils m'écoutent pas. Il dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu t'arrêtes là maintenant? Allez, allez, allez. Je vois que toi, tu ne sais pas vraiment prier. Va réveiller ceux qui dorment à Hebron, parce que eux, ils savent prier. C'est qui ceux qui dorment à Hebron? Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et on voit comment Jérémie, il y va. Yirmiyahu Hanavi. Il va réveiller Abraham, il va réveiller Yitzhak, il va réveiller Yaakov. Et chacun se lève et vient plaidoyer la cause du Ham Israël. Et chacun va dire des choses extraordinaires. Et Brit, Vechesed, Vezev, Yud Gimel. Kadosh Baruch Hu rejette les arguments d'Abraham, rejette les arguments de Yitzhak, rejette les arguments de Yaakov. Sauf que s'il a réveillé Abraham, Yitzhak et Yaakov à Hebron, ben, se sont levés aussi Sarah, Rivka et Léa. Ben, elles dorment à côté. Il les rejette également. Finalement, Yirmiyahu dit, bon, ben, alors je vais aller voir Moshe. Et il va voir Moshe, il se met au-dessus de la vallée du Jourdain et il crie, Moshe, viens là. Ben Amram, Ben Amram. Et Ben Amram, il se lève et il va plaidoyer, qui mieux que Moshe? Pour l'âme Israël. Shum davar. Dieu n'accepte pas. Là, Midrash bat vers Omer. Le Midrash vient et dit, Kafza Rachel. Kafza Rachel ve Amra. Rachel, elle a sauté et elle a dit. Comment ça, elle a sauté, elle a dit? Personne ne l'a invité. Nakhon, personne ne l'a invité. Elle s'est invitée toute seule. Rachel, elle arrive et elle dit, Ribono shel Olam, bon, c'est bon, t'as fini d'écouter les autres là? Maintenant, écoute-moi bien. Rachel, Imenu. Rachel, qui est celle qui est la moins la mère du peuple juif, elle n'a que 2 enfants. Et pourtant, depuis maintenant près de 4000 ans, c'est qui? The maman, the matriarche par excellence, c'est Mama Rachel. Combien de juifs ont été sur la tombe de Rachel Imenu, Kever Rachel, et combien ont été sur celle de Léa? Soyons très honnêtes. Qu'est-ce qu'elle vient dire, Rachel? Eh bien, Rachel vient nous apprendre qu'est-ce que c'est le secret d'être une maman. Elle dit à Ribono shel Olam, écoute-moi bien, pourquoi tu t'excites? Pourquoi tu t'excites contre le peuple juif? Ils ont fait la Avodah Zara, hein? Nounou. Pourquoi t'as mécané? Pourquoi tu es jaloux? Arrête, tu sais bien que c'est des ch'touillottes, là, Avodah Zara. Et Dieu, il dit, mais alors, qu'est-ce que tu dis quoi? Tu veux que je fasse quoi? Et là, Rachel, elle lui dit, écoute-moi bien. Tu sais comme moi. C'est comme ça qu'elle parle, Rachel, incroyable. Elle dit à Dieu, tu sais comme moi combien j'ai aimé Yaakov. Et combien Yaakov, il m'aimait. Et tu sais ce qui s'est passé quand Lavan a décidé de nous interchanger avec Léa. Et à ce moment-là, pour ne pas que ma sœur ait honte, parce qu'on le savait avec Yaakov qu'il risquait d'arriver un truc, donc on s'était fait des signes, des codes. Et au moment où il a fallu que je change avec ma sœur, je ne voulais pas qu'elle ait honte, je lui ai donné les codes. Et je raconte à Yahat. Dans l'histoire de la Torah, on nous dit que finalement, donc, il se marie et il ne se rend pas compte. Et on dit, Vaya ba boker veine Léa. Genre au petit matin, Yaakov s'est rendu compte que c'était Léa. Excusez-moi, mais je suis obligé de poser la question. Et pendant la nuit, Je t'entends pas, Myriam. Il faut que tu mettes ton micro, sinon je ne t'entends pas.
Non, dans la nuit, il y a l'obscurité, il ne voyait pas.
Ouais. Mouais. Non, parce que, enfin, je suis désolé, hein, il y a des enfants, donc on ne va pas faire de détails, mais voilà. Ça d'aime. Il ne voyait pas.
Non, je n'ai pas compris.
Tant pis, c'est tes enfants, c'est pas les miens. Mais Kitsour, quoi, il pouvait pas être une petite bougie, des petites bougies d'ambiance, tu vois, un petit truc comme ça, des huiles essentielles, quelque chose. Alors quoi, il y avait de l'obscurité. Qu'est-ce que ça veut dire, il voyait pas? Je vais te dire mieux que ça. Et au moment où ils ont demandé, où Yaakov, il a dit, allez, donne-moi le code. Ils avaient la même voix, Rachel et Léa. C'est la même voix exactement?
Peut-être, ma... oui.
Hein, peut-être, c'est possible. Hein,
c'est possible.
Hein,
c'est possible.
Bah ouais, pourquoi pas?
Non, il y a des sœurs qui ont les mêmes voix.
Nachon.
On dit qu'elle est sous le lit.
Ah. Tu rigoles, tu rigoles, mais exactement. Le Midrash, il continue. Le Midrash, il continue. Et il dit que Rachel, elle s'est mise mitachat la mita.
Elle
s'est mise sous le lit et à chaque fois que Yaakov lui posait une question de code, c'est Rachel qui répondait. De sorte qu'effectivement, il a pas vu la supercherie. Tout ça parce qu'elle ne voulait pas que ça serait honte.
Qu'elle soit humiliée.
Quelle abnégation! Je ne sais pas pourquoi j'ai un écho là maintenant tout d'un coup. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit fermer son micro. Voilà. Non.
Anita.
C'est bon? Ok. Mais qui te sont? Tout ce qu'elle fait, Rachel, c'est la preuve de son abnégation pour les autres. Pour les autres, pour qui ? Pour sa sœur, mais pas que. Parce qu'elle sait très bien que de cette union va naître un Israël. Et donc elle dit à Kadosh Baruch Hu, donc si moi, j'ai pu être pas mécana de ma sœur et de ce qui s'est passé, parce que je savais que c'était pour le bien du Ham Israël, Asgamata. Et là, Kadosh Baruch Hu, il accepte. Et il dit, Yesh Sachar Lipeulater. La Torah, elle commence en disant ce fameux verset qu'on connaît, qu'on met en chanson. Kol Berama Nishma. Nei Berit Amrurim. Rachel Mevakal Banea. Et les commentateurs ont l'habitude de dire Mazé Kol Berama Nishma. C'est où ? Ben, c'est à Rama. C'est là où habitait Jérémie. C'était sans compter les explications incroyables du Talmud Yerushalmi qui nous dit « Kol berama berumo shel olam ». Ce n'est pas Jérémie à Rama, c'est il a entendu la voix de Rachel « berumo shel olam » dans les cieux. Rachel nous apprend qu'une maman, par excellence, c'est l'abnégation pour ceux qui lui sont chers. C'est de tout faire pour ceux qui nous sont chers. Alors, on a maman dans toutes les dimensions. Et où sont les enfants dans l'histoire ? Parce que là, on a expliqué qu'est-ce que c'était la dimension de maman. Mais quel est le regard de l'enfant par rapport à sa maman ? Quel est ce regard qui est le nôtre par rapport à ce qu'on nous a légué ? Je parlais tout à l'heure de Eshet Rahil. Ce qu'on a oublié de dire, ce que vous savez toutes, c'est qu'en vérité, d'où elle vient cette chanson ? Elle vient d'un mariage. Elle vient d'un mariage. Il y a eu un mariage très sympa. Mariage grosse ambiance, hein, attention. Hein. C'était un mariage pas corona. Mais tout le monde n'était pas invité, c'était très sélect comme mariage, puisque c'était le mariage de Shlomo Ameler. Le mariage de Shlomo, alors pas avec n'importe qui, avec Bat Paro. C'était pas son premier mariage, c'était son deuxième mariage. C'est-à-dire, son premier mariage, il s'est marié avec Naama Ammonite, mais il s'est marié quand il avait 13 ans. C'était plus un mariage politique qu'autre chose. Son deuxième mariage, c'est avec Bat Paro. Il en est red dingue. Il en est amoureux, Chaval Alazman. Sauf que Bat Paro, c'est pas non plus la plus grande tzadika du monde. Le soir du mariage, où sont invités l'élite de Jérusalem, il y a une autre soirée qui est organisée, une autre ambiance, à 500 mètres de là. À 500 mètres du palais du roi, il y a une autre petite ambiance qui se met en place devant l'entrée du Beth Amikdash. C'est quoi cette fête ? Ben, c'est la pré-inauguration du Beth Amikdash. Demain matin, ça sera l'inauguration du premier temple. Il est construit... Demain matin, inauguration. Donc, on a d'un côté le mariage du roi et de l'autre côté, la pré-inauguration du Beth Amikdash. Shlomo, il a envie d'être aussi à l'autre ambiance. Et à chaque fois, nous dit la Gemara, le Midrash, c'est repris également, qu'il a envie de terminer vite fait le mariage pour aller à l'ambiance Beth Amikdash. Il y a Bat Paro qui lui convainc de rester. Elle lui a fait faire une tapisserie avec des étoiles brodées en or, qui raconte toute l'histoire de la mythologie égyptienne. Et à chaque fois qu'il veut partir, elle lui dit « Mais enfin, mon amour, mon chéri, tu pars déjà !» Et au final, bah, il est un bon petit 3-4 heures du matin, et puis il s'endort auprès de Bat Paro. Et le lendemain matin, levé du soleil, tout le Ham Israël attend qu'on ouvre le Beth Amikdash, inauguration. Rien ne se passe. Pourquoi ? Bah parce qu'on attend le roi. Et le roi, il dort. Et le problème, c'est que c'est lui qui a la clé. On attend une heure, on attend deux heures, on attend trois heures. C'est presque quatre heures que le soleil s'est levé. On ne sait pas quoi faire, t'imagines ? On ne va quand même pas aller réveiller le roi. Donc, on va aller chercher la seule personne qui va oser rentrer dans la chambre nuptiale et aller réveiller le roi. C'est qui ? C'est sa mère. On va chercher Bathsheba et on lui raconte un peu l'histoire. Bathsheba, elle s'en fout. Elle rentre dans la chambre. Elle ouvre les rideaux. Je ne sais pas s'il y avait des rideaux, mais comme Chanel. Elle ouvre les rideaux. Elle réveille son fils avec un accent tunisien. Et elle dit, mon fils, alors, tout le monde t'attend. Et là, il se réveille doucement. Qu'est-ce qui se passe? Comment je m'appelle? Et sa mère, elle lui dit, mais enfin, ma nisgar. Il dit, écoute, j'étais avec ma femme et tout, machin. La mère juive, nachon. Et à ce moment-là, Bathsheba, elle commence à lui faire un Miché Berach, Chaval al-Azman. Elle lui dit, si ton père, il te voyait, ton père, c'était un vrai Oved Hashem. Ton père, jamais il aurait été en retard pour l'inauguration du Beth Amikdash. Mais tu te rends compte? Et à ce moment-là, la Gemara nous raconte cette histoire incroyable. La Gemara nous dit qu'à ce moment-là, quand elle lui a fait un moussard énorme, Shlomo, il regarde sa mère, ensuite il regarde sa femme, il re-regarde sa mère, il re-regarde sa femme, il regarde sa mère une troisième fois et lui dit « Eshet chayil mi'imtza, verachok mi'penim mi'mikra. » Eshet chayil, Shlomo, il ne l'a pas écrit pour sa femme. Il l'a écrit pour sa mère. Le rapport qu'on a avec nos mamans, c'est notre modèle de notre vie conjugale. Il ne s'agit pas ici d'un complexe d'Oedipe à l'envers. Il s'agit d'apprendre comment être le plus Kodesh Kodashim de la personne qui nous a appris qu'est-ce que c'était le Kodesh Kodashim. Et ça, c'est maman. D'ailleurs, je ne dis pas ça comme des paroles en l'air. On a parlé de Sarah, de Rivka, de Rachel, de Léa. On ne parle pas assez de maman-maman. Tu sais, de the maman. C'est qui the maman? On ne parle pas assez, je trouve, de Chava Imenu. On parle de Sarah Imenu, de Rivka Imenu, Rachel et Léa. Maim Chava. Adam et Chava, Ken, Chava. Ève. Il n'y a pas plus maman que elle. Eh bien, Chava va nous expliquer quoi? Non, tu n'es pas d'accord, hein? C'est the maman par excellence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chava, quand elle est maman pour la première fois, tu sais qu'est-ce qu'elle dit? Phrase incroyable. C'est une vraie mère juive. Elle dit... Kaniti ish et Hashem. J'ai fait un bébé avec Dieu. Non, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Elle sait très bien qu'elle a été avec Adam. Mais elle comprend qu'elle devient créatrice de vie. Et que ça, il n'y a pas plus divin que de créer la vie. Chava, d'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Chava? Elle ne devrait pas s'appeler Chava. Mamash, elle ne devrait pas s'appeler Chava. Comment elle devrait s'appeler en vrai, d'après la grammaire hébraïque? Nous dit le texte de la Torah hein, que Adam, finalement, va la nommer. Vaikra et Shema Chava ki im yaita em kol chay. Si elle est M. Kol Chai, si on parle de M. Kol Chai, alors elle ne devrait pas s'appeler Chava, elle devrait s'appeler Chaya, et non pas Chava. Nous disent Chachma Kabbalah qu'elle s'appelait Bémet Chaya, là-haut, et que quand la Neshama elle est descendue, le Yud s'est allongé pour faire descendre la Neshama. Et de Chaya, c'est devenu Chava. Tov, c'est Chamoud, Aval Lama. Ça sert à quoi? Ben, je vais te dire à quoi ça sert. Vous vous rappelez d'un beaucoup plus tard, un homme qui s'appelait Abraham, qui part avec son fils Yitzhak sur une montagne. Et lorsqu'il vint sur la montagne, il y laisse en bas de la montagne ses deux accompagnateurs. Et il dit... qu'on va aller là-bas. Ani ve'anav nelcha ad ko ve'nishtachave ve'nashuva alechem. Mazé ve'nishtachave. Et on va se prosterner, diront en français. Seulement ceux qui ont fait de l'ulpan. C'est quoi la racine du mot ve'nishtachave? Eh bien, la racine du mot ve'nishtachave, ce n'est pas shacha, car le shin fait partie de la forme grammaticale, mais c'est bel et bien chet, vav, hey, chava. Vous savez ce que ça veut dire se prosterner be'har ha'bayit? C'est revenir à la source de vie. Chava, c'est la maman par excellence. Et non, ce n'est pas l'Immaculée Conception. Absolument pas. Il s'agit tout simplement de prendre conscience que ce qu'on fait ici, c'est le dévoilement de la volonté divine. La volonté divine. On n'est pas obligé d'inventer une théologie absolument absurde pour mêler Akadosh Baruch Hu à ce qui se fait ici. Bien au contraire. Em kol chay, zechava. C'est la maman par excellence. Notre lien avec la source de vie. Bien, les amis, c'était tout ça, maman. Je pense que moi, je n'ai eu la chance que de la voir pendant les cours, mais de cette sagesse qui n'était pas forcément une sagesse des livres, mais qui était une sagesse de la vie. Eh bien, Yehudit, elle nous rattachait à la source de vie. Tout simplement. Alors, puisqu'on parle des mamans et qu'on a dit que au travers de ta maman, eh bien, on parle de toutes les mamans, eh bien, je ne peux pas m'empêcher, et c'est ce que vous avez dit également durant la Levaya, je ne peux pas m'empêcher de voir à quel point, eh bien, ta maman était la maman, en fait, de toutes les familles. Moi, je me souviens, enfin, je me souviens encore aujourd'hui. Vous savez, dans la famille, dans ma famille, j'ai la chance d'avoir encore une grand-mère qui est toujours là. Et comme c'est notre dernière grand-mère, on s'amuse à être en compétition, tous les petits-enfants, pour savoir qui elle préfère. Je vois par les rires que ce n'est pas que dans ma famille. Ça fait plaisir. Alors évidemment, chacun y va de son petit stratagème. Il y en a un, des petits-enfants, qui c'est absolument pas juste d'ailleurs, c'est complètement c'est truqué, tu vois. Il y en a un qui a déjà des points d'avance. Tout simplement parce que physiquement, il ressemble comme deux gouttes d'eau à mon grand-père. Donc quand elle voit son mari, celui avec qui elle a passé toute sa vie, machin. Donc laisse tomber, il a déjà des points d'avance. Donc déjà, c'est pas fair play. Il y en a un autre qui a des points d'avance et c'est pas fair play non plus, c'est mon grand frère. Puisque c'est le premier des petits-enfants. C'est lui qui l'a fait devenir grand-mère, donc pas juste non plus. Donc il y en a deux qui ont déjà des points d'avance, que c'est, voilà. Après, tous les autres, on est obligé de gratter, tu vois, de gratter des points. Donc tu grattes des points à coup de cadeau, à coup d'appel avant Shabbat, tu grattes des points, tu vois. Et ma grand-mère, elle dit tout le temps, hein, « Oh, mais enfin, arrêtez. Il y a de la place dans mon cœur pour tout le monde. » À toutes les mamies, elles disent ça. Nachon, toutes les mamies, elles disent ça. C'est comme ça. Avalaim Zenachon, est-ce que c'est vrai qu'il y a de la place dans mon cœur pour tout le monde? Ouais, mais comment c'est possible que ce soit vrai? Je suis d'accord avec vous que c'est vrai, mais Avalaim. Eh bien, tout simplement parce que ma mamie, ta maman, elle n'est pas toute seule. Parce que mamie, maman, et toutes les mamies et toutes les mamans, elle porte en elle Chava, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Chana. Chana de qui on a appris toutes les lois de la Tfila. Chana qui était la maman, à tel point qu'on va dire d'elle, le Maharal de Prague dit, vous savez, quand elle est arrivée au Mishkan et qu'elle prie, et que Eli à Cohen, il voit ses lèvres bouger, mais il n'entend pas ce qu'elle dit. Il la prend pour une saoule, pour une ivre. Parce qu'il a fait Urim Vetumim, et qu'il a vu les lettres s'allumer. Il a vu les lettres Shin, Kaf, Resh, Hei. Et il a lu Shikora. Dit Srazad dans le Gemara, il n'aurait pas dû lire Shikora, il aurait dû lire Kshera. elle est cachère. Il nous dit le Maharal de Prague qu'il n'aurait pas dû lire Kshera non plus. Il aurait dû lire Kessara. Elle est comme Sarah. Az maman, mamie, elle porte en elle toutes ces forces-là. Elles nous ont appris à être en relation avec la source de vie. Elles nous ont appris à être intransigeantes sur l'amour qu'elles avaient pour leurs enfants et pour la promesse. Elles nous ont appris à être kulo chesed. Elles nous ont appris à avoir des valeurs extrêmement profondes qu'elles vont donner à leur famille et également à être capables d'influer sur le monde entier. Elles nous ont appris comment parler à Kadosh Baruch Hu. Zeh Aimaot. Et c'est pour ça que maman, mère, Ima, mother, dans toutes les langues, vous remarquerez que l'appellation de la mère nous fait faire, en termes de gestuelle buccale, une gestuelle qui nous rappelle le fait de téter. Maman, 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 imma, imma. Parce qu'on sait très bien, quand on regarde maman, eh bien c'est elle qui nous donne la vie. Pas seulement au sens propre, mais également à tous les sens figurés possibles. Zé maman. De Rosh Hashanah, on a lu les haftarot des mamans par excellence, de Chana et de Rachel Imenu. Mais Yom HaKippurim, on ne lit pas la haftara des mamans. Nachon. Mais Yom HaKippurim, on n'a pas besoin de lire la haftara des mamans. Puisque à Rosh Hashanah, les mamans nous ont appris à être Kodesh HaKodeshim. Mais Yom HaKippurim, on rentre dans le Kodesh HaKodeshim. Mais Yom HaKippurim, on va chercher celle qui va devenir la nouvelle maman. Qu'est-ce qu'on faisait à l'époque du Beit HaMikdash à Yom HaKippurim? L'après-midi à Mincha, quand on n'était pas marié? Ouais. On partait dans les champs, dans les vignes, et on allait regarder les jeunes filles célibataires qui dansaient là-bas. Comme à Toubéav. Oui, ce n'est pas que Toubéav, c'est aussi Yom HaKippurim. Et là-bas, on y trouvait celles qui allaient devenir les futures mamans d'Israël. Rosh Hashanah, c'est l'exemple de c'est qui maman. Yom HaKippurim, c'est la recherche de maman. Chag HaSukkot, c'est le moment où on construit notre maison avec maman. Toutes les fêtes de Tishrei sont le moment où on apprend à revenir à la source de vie. C'est ça qu'était ta maman, c'est ça qu'étaient nos mamans, c'est ça que, quand vous voyez, vous, les mamans et les mamies, vos petites filles, vous savez qu'elles vont devenir, eh bien, celles qui vont transmettre cette flamme d'Israël. Où est-ce qu'on a appris, tous, à être fiers de qui on est? Au Beit HaMidrash ou dans chaque cuillère à soupe que maman elle nous a donnée? Et je terminerai sur une toute petite histoire. J'ai des amis avec qui j'ai guidé souvent qui m'ont raconté comment, eux ils sont nés en Israël, mais ils m'ont raconté comment leurs parents ont fait leur alia. Ils me racontent comment son père a fait son alia, il me dit, tu sais, en fait mon père, c'est pas compliqué. Comment il a fait son alia, mon père? Il nous raconte et il dit, quand il était petit et que sa grand-mère lui donnait le petit pot de bébé, elle prenait la cuillère et comme toutes les mamans, elle faisait l'évion. Seulement, elle rajoutait un truc. Avec la cuillère, comme ça, alors qu'ils habitaient là-bas à Paris, elle disait, voilà l'avion qui va te ramener en Israël. Et il dit qu'au bout de 30 ans de cuillère à peau d'avions qui vont te ramener en Israël, eh ben, il a pris un avion et il est rentré en Israël. C'est ça, les mamans d'Israël. C'est ça que je voulais partager avec vous ce soir, parce que celle qui a été la maman de notre cours, celle qui a été la maman de toute une vie, eh bien, comme je l'ai dit au début du cours, et je reviens par là et je termine par là, à la fin de sa vie, elle a eu la chance de redevenir pas une maman d'Israël, mais une bat Israël. à la fin de sa vie, elle est redevenue une enfant. Elle est redevenue celle qu'elle a tellement espéré être quand elle était jeune. Elle a réalisé avec nous les promesses bimillénaires d'espoir du peuple juif. Et la voir danser comme ça dans les rues de Jérusalem avec toutes ces jeunes filles qui ne se rendent pas compte à quel point elle est de la même promotion. Elle est de la même promotion. La reine, je terminerai par ce passage incroyable. Fin de la prophétie dans le livre de Malachie, au chapitre 3. Malachie nous dit, le but du jeu à la fin de l'histoire, c'est que « Ine anochi sholeach lachem et Elia anavi ». Pourquoi faire ?« Lifne bo yom Hashem agadol v'anora » avant le jugement. « Aval lama ». Son but à Eliaou, il est très simple. « Ve'ishiv lev avot albanim ve'lev banim alavotam ». Faire en sorte que les enfants comprennent leurs parents et que les parents comprennent leurs enfants. Ta maman, elle nous a fait comprendre cela puisqu'elle a réussi à passer de parents à enfants. Tout le monde travaille dans sa vie pour passer du stade d'enfant au stade d'adulte. Peter Pan, lui, il ne voulait pas devenir un adulte. Mais le petit prince de Saint-Exupéry, lui, nous a appris à redevenir un enfant. Et je pense qu'il n'y a pas de plus belle phrase que celle qui disait que les adultes ne voient qu'avec les yeux, ils ne voient pas avec le cœur. Ta maman était une vraie maman qui arrivait à voir avec le cœur, et c'est ça qui vous a fait venir ici finalement. Alors voilà, à bientôt les amis, et s'il y a des questions, eh bien, c'est un plaisir.
Merci, merci beaucoup. Vraiment, c'est absolument extraordinaire. J'ai perdu tout le monde là.
Moi aussi.